franceinter.fr.
Le journal Frédéric Benadia, Benyada, pardon. Bonjour Frédéric.
Bonjour. L'essentiel de ce journal sera consacré aux attentats sanglants qui ont frappé l'Espagne hier après-midi et la nuit dernière. Des attentats qui ont fait 14 morts et plus d'une centaine de blessés. Après Barcelone et cette fourgonnette qui a foncé sur les Ramblas, l'un des lieux les plus touristiques de la ville, c'est la station balnéaire de Cambrils qui a été touchée. 5 terroristes ont été abattus. À Barcelone, l'auteur de l'attaque est en fuite. Attaque revendiquée par le groupe État islamique. Alors pourquoi l'Espagne est-elle visée? L'Espagne, relativement épargnée jusqu'à présent, est-elle une terre de djihadistes? Nous allons y revenir avec notre invité Dominique Thomas, expert en djihadisme, et nous irons également à Nice où, ironie du calendrier, une cérémonie hommage aux victimes de la promenade des Anglais avait lieu ce matin. L'actualité en France, marquée ce matin par cette nouvelle évacuation de migrants, porte de la Chapelle à Paris, puis le scandale du fipronil et les produits qu'il ne faut plus consommer des gaufres pour l'instant. Quel temps pour aujourd'hui? C'est encore tristounet et très agité. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Frédéric. Oui, on a déjà une perturbation pluvieuse qui va s'étendre du sud-ouest à la Lorraine en passant par le Limousin et la Bourgogne. Sur le quart nord-ouest, on retrouvera de belles éclaircies, notamment entre les plages bretonnes et le littoral de Vendée. Mais un front secondaire va s'organiser entre la Belgique, le bassin parisien et la Touraine et des averses vont transiter cet après-midi, atténuant les éclaircies. Au nord de la Seine, quelques coups de tonnerre pourront retentir. Entre l'Alsace, la Franche-Comté et le sud du Massif central, le temps va devenir de plus en plus chaotique. Et des averses orageuses vont éclater cet après-midi, pouvant même s'accompagner de grêles par endroits. Les Alpes seront touchées plus tardivement en seconde partie d'après-midi et durant la soirée. En Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, le ciel va s'ennuager malgré une légère tramontane et puis le soleil résistera entre la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et malheureusement, les températures sont en baisse.
Oui, il fera seulement 19 degrés à Brest et Cherbourg, 23 degrés pour Paris et Nancy, 24 à Bordeaux et Nantes. On gardera quand même des pôles de chaleur sur l'Est et Midi-Pyrénées. Prévoyez 29 degrés à Toulouse et Mulhouse, 32 degrés à Lyon et Béziers, 33 degrés pour Marseille et Bastia et on ira jusqu'à 37 degrés à Carpentras.
Sébastien Léas, merci. Il était un peu plus de minuit quand l'Espagne a été frappée par une deuxième attaque terroriste. Une voiture bélier a foncé sur la foule dans la station balnéaire de Cambrils, à une centaine de kilomètres de Barcelone. La police catalane a tué les 5 occupants du véhicule. Visiblement, ils portaient de fausses ceintures d'explosifs. Il y a un mort et 5 blessés dans la foule, dont un policier. Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd sans la présence massive des forces de l'ordre depuis hier après-midi. Le bain de sang a été évité, ce qui n'a pas été le cas à Barcelone hier après-midi sur les Ramblas. Un des hauts lieux touristiques de la cité catalane. L'attaque à la fourgonnette hier vers 17h a fait 13 morts et plus d'une centaine de blessés. Barcelone et toute l'Espagne en état de choc aujourd'hui. Avec nous en direct de Barcelone, Thibault Lefèvre. Bonjour Thibault.
Bonjour Frédéric.
L'Espagne qui a rendu hommage aux victimes de cette attaque avec 7 minutes de silence à midi sur la place de la Catalogne.
Oui, une minute de silence qui a duré bien plus d'une minute. Suivi d'une longue salve d'applaudissements et d'un slogan scandé par une foule unie. No tinc por, la contraction en catalan de no tengo miedo, je n'ai pas peur, dans la foule Sandro qui, comme tous les manifestants, applaudit et crie sa colère.
Je suis venu pour montrer que nous sommes unis avec toute la société, toutes les nationalités, toute la diversité qu'il y a ici en Catalogne, contre ceux qui défendent un modèle différent, un modèle de terreur, de peur et de violence.
Une foule hétéroclite donc, les hautes personnalités de la monarchie républicaine espagnole, le Premier ministre Mariano Rajoy, le roi Felipe VI, mais aussi beaucoup de touristes et notamment des Français. Aurélie est en vacances avec son petit ami.
On est assez touchés. Enfin, je veux dire, en tant que Français particulièrement, on a vécu les derniers attentats à Paris et voilà, ça nous semblait normal d'être là aux côtés des Espagnols. C'est devenu quasiment normal pour nous, les attentats. C'est assez incroyable d'avoir ce sentiment finalement que des attentats soient devenus quasi une banalité. On n'a pas vraiment de mots en fait, on est un peu sous le choc.
Une stupéfaction silencieuse partagée par les milliers de manifestants. Ils se sont ensuite dirigés vers Las Ramblas pour scander ensemble leur colère contre le terrorisme et leur envie de se battre.
Nothing for, nothing for, nothing for, nothing for.
Thibault Lefebvre en direct de Barcelone avec les moyens techniques de Fabien Gosset. La police catalane a pu faire le lien entre l'attaque de Cambrils et l'attentat de Barcelone. Attentat, nous vous l'avons dit, revendiqué en début de soirée par le groupe État islamique. Le dernier bilan communiqué par les autorités à Barcelone est de 13 morts, plus d'une centaine de blessés. Il y a des Français parmi les victimes. 26 Français blessés, dont une dizaine dans un état grave, d'après Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. Concernant l'enquête à présent, dans la confusion qui a suivi l'attaque, l'homme qui conduisait la fourgonnette a pris la fuite. Il est aujourd'hui activement recherché après une fausse alerte dans un bar de la ville où la police pensait l'avoir identifié hier, mais plusieurs interpellations ont tout de même déjà eu lieu, au moins trois personnes. Nathalie Hernandez, vous nous avez rejoint en studio. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Qui sont ces personnes, des complices ?
Alors écoutez, l'identité de l'une d'elles a été révélée hier. Il s'agit de Driss Oukabir. C'est un homme de nationalité marocaine vivant à Ripoll, à une centaine de kilomètres de Barcelone. Il s'est rendu lui-même à la police. Il a expliqué qu'on lui avait volé ses papiers d'identité pour louer une des camionnettes et qu'il n'était en rien impliqué dans l'attentat de Barcelone. C'est son plus jeune frère, âgé de 18 ans, qui serait soupçonné et actuellement recherché. Il pourrait avoir, en effet, emprunté la carte d'identité de son frère aîné. La police n'a pas donné de précision sur le rôle qu'il aurait pu avoir. Mais selon nos confrères d'El País, il pourrait être le chauffeur de la camionnette qui a fauché et tué des passants hier sur les Ramblas. Un autre suspect a lui été interpellé ce matin. C'est un homme de 34 ans, de nationalité marocaine. Une connaissance d'Oukabir. Le dernier interpellé est un Espagnol qui a été arrêté à Alcanar, à 200 km de Barcelone, à la suite d'une explosion dans une maison. Une vingtaine de bonbonnes de gaz y ont été retrouvées. Pour la police, ses occupants étaient sûrement en train de fabriquer des explosifs. Sans donner plus de détails, les enquêteurs se disent certains d'un lien entre Barcelone et l'attaque cette nuit dans la station balnéaire de Cambrils. Les enquêteurs cherchent maintenant à confirmer les liens entre Barcelone, l'explosion dans cette maison d'Alcanar et l'attaque cette nuit à Cambrils. À Cambrils, où les 5 terroristes présumés ont été abattus par les forces de l'ordre après avoir foncé en voiture sur des passants. Et comme vous le disiez, selon les autorités, certains des passagers du véhicule portait de fausses ceintures d'explosifs.
Nathalie Hernandez avec nous à présent. Claude Guibal du service diplomatique de France Inter. Bonjour Claude.
Bonjour.
L'Espagne jusqu'à présent épargnée, mais terre particulière pour les djihadistes.
Oui, on en a effectivement déjà parlé, hein, de cette terre particulière pour ces djihadistes qui entretiennent en fait dans leur corpus idéologique un rapport très spécial à ce pays, l'Espagne, marqué par 7 siècles d'occupation arabo-musulmane, le califat l'Andalus. Alors on parle vraiment là de la période la plus glorieuse de la conquête de l'islam, et les djihadistes régulièrement, ils font référence en promettant de venger la chute de Grenade, de reconquérir cette zone considérée comme une terre musulmane. Alors cela, l'Espagne elle-même ne s'en est vraiment souvenue qu'en 2004. C'était, vous vous en souvenez, les terribles attentats de Madrid, 10 bombes qui explosent à la gare d'Atocha, 191 morts, presque 2000 blessés. À l'époque, les services de renseignement espagnols, obnubilés par la lutte contre le TEAF, sont abasourdis. C'est le moment où, d'un coup, l'Espagne apparaît en fait dans tous les viseurs, y compris ceux de la CIA, comme un vivier terroriste majeur, une plateforme de radicalisation et de logistique.
Alors paradoxalement, si l'on compare avec la France, il y a peu de djihadistes espagnols qui sont partis combattre en Syrie ou en Irak, environ 200. On est loin des presque 1000 combattants répertoriés en France.
Oui, effectivement, c'est très différent. Et ça, alors c'est peut-être lié au fait que l'Espagne, depuis 2004, a totalement repensé sa lutte antiterroriste. Elle s'est notamment dotée de lois très spécifiques, très controversées pour certaines d'ailleurs, qui permettent en fait des arrestations préventives ou la création de délits d'endoctrinement, par exemple, à des fins terroristes ou même à des fins passives. Et cela, ça a mené à un nombre important d'arrestations. Et puis, il y a une coopération sécuritaire très importante avec le Maroc, qui est également jugée exemplaire. Elle a permis de démanteler ces dernières années des réseaux très importants. Alors c'était des réseaux qui étaient très hiérarchisés, très structurés, et peut-être ce à quoi on assiste en ce moment, c'est peut-être l'éclosion de nouveaux réseaux moins identifiés. Ces derniers mois pourtant, l'Espagne se savait très clairement ciblée. Il y a eu ce projet d'attentat au moment du réveillon du Nouvel An à la Puerta del Sol, à Madrid, et puis surtout en avril, d'autres attentats déjoués à Barcelone notamment. Ça a mené à des vagues d'arrestations au printemps. Madrid était inquiet. Et le niveau d'alerte était passé à 4 sur une échelle de 5.
Claude Guibal, l'invité de ce journal à présent, Dominique Thomas, chercheur expert des mouvements djihadistes, auteur notamment de Génération djihadiste. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que l'Espagne pouvait s'attendre à des attentats de l'organisation État islamique, d'autant que l'Espagne n'est pas en première ligne au sein de la coalition dans son combat contre El Al? C'est surtout un soutien logistique et humanitaire.
Oui, tout à fait. Mais alors, ça n'est pas forcément un élément, si vous voulez, qui peut épargner un pays des attaques commises par des groupes djihadistes. L'Espagne cible de l'État islamique, il faudra peut-être, il ne faut pas surinterpréter la revendication qui n'a été pour l'instant relayée que par l'agence de presse dite Arnaq de l'État islamique. Le degré de lien organique entre les auteurs de ces attaques et l'organisation devront être mis en avant de manière beaucoup plus claire. Pour l'instant, on est encore dans l'expectative s'il s'agit d'actions planifiées ou d'actions inspirées. Néanmoins, ça a été rappelé justement par votre collègue, l'Espagne est depuis quasiment le début des années 2000, depuis 2001, il faut rappeler que dans le commando du 11 septembre, des gens étaient déjà passés par cette région. L'Espagne est un terreau, un territoire sur lequel des djihadistes sont passés, sur lequel des djihadistes se sont, des personnes se sont radicalisées. Donc, ce n'est pas surprenant de voir l'Espagne, qui est en plus un pays touristique, donc de frapper le tourisme permet aussi une caisse de résonance très forte pour ces groupes-là. Et donc, il n'y a pas de raison, malheureusement, de penser que l'Espagne pouvait être épargnée, comme d'ailleurs du reste d'autres pays ne le sont pas actuellement. Il y a des arrestations, il y a des démantèlements dans d'autres régions de la Méditerranée, notamment en Italie, il peut y en avoir en Grèce. Hélas, je dirais que tous les pays de l'Europe occidentale, en particulier les pays où le tourisme est important, sont éventuellement sous la menace d'une attaque de ce type, d'une attaque inspirée ou d'une attaque plus planifié, ça c'est l'enquête qui nous déterminera éventuellement les liens organiques qu'ils peuvent avoir entre ces auteurs et les organisations djihadistes qui revendiquent ce type d'action.
Oui, Claude Guibal en parlait il y a quelques instants, on disait environ 200 personnes parties faire le djihad au Levant, 200 c'est finalement très peu. Alors comment expliquer que l'Espagne a vu grandir cet islamisme radical aussi violent ?
Oui, c'est vrai que les chiffres, il faut faire très attention aussi. Quand on parle de 200 personnes, il faut compter déjà qu'il n'y a plus que une centaine ou 120 personnes qui sont encore considérées comme sur zone. Donc, et on peut pas éventuellement avec précision savoir s'il y a encore des tués. Il y a eu une quarantaine qui ont été tués, une quarantaine de retours. Donc déjà, ce chiffre doit être expliqué. Mais l'Espagne, encore une fois, il faut le rappeler, depuis plusieurs années, il y a eu des démantèlements de réseaux. L'Espagne a été le territoire de plusieurs groupes, de plusieurs réseaux. Il y a eu les réseaux du GSPC, donc l'ancien groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui impliquait des ressortissants algériens, qui étaient donc de l'islamisme algérien. Il y a ensuite également des réseaux qui ont été liés au djihadisme marocain, le GICM, le groupe islamique des combattants marocains. Tous ces groupes ont disparu, le GSPC est devenu ACMI. Mais il y a eu quand même, vous voyez, des réseaux parfaitement structurés, ça a encore une fois été rappelé. Il y a des réseaux structurés du djihadisme marocain et du djihadisme algérien. Et puis il y a eu aussi des réseaux plus complexes liés à la mouvance Al-Qaïda, comme ça a été le cas dans les années 2004 avec les attentats, des réseaux qui ont impliqué des gens qui venaient du Moyen-Orient, notamment de Syrie, des gens qui venaient d'Égypte, des gens qui venaient d'ailleurs. Et donc on voit que ce territoire espagnol est un territoire sur lequel des incubations, sur lequel des hybridations entre différentes personnes d'origine du monde arabo-musulman peuvent éventuellement à la fois perpétrer, planifier des opérations ou aussi des gens qui sont venus en Espagne pour des raisons économiques s'y radicaliser auprès justement éventuellement d'idéologues ou de pseudo-idéologues ou de prédicateurs ou éventuellement il faudra déterminer encore une fois avec l'enquête le profil des auteurs, qui ils ont fréquenté, est-ce qu'ils ont effectué des voyages à l'étranger, est-ce qu'ils ont été au contact éventuellement de gens qui sont revenus de Syrie ou d'Irak, ou est-ce qu'ils fréquentaient des lieux considérés comme radicaux, notamment dans la région de la Catalogne, ou éventuellement est-ce qu'ils étaient exposés à la propagande sur Internet des groupes djihadistes, en particulier l'État islamique. Tous ces éléments-là nous permettront d'avoir une lecture plus fine de ce éventuellement réseau, parce qu'il ne faut pas encore parler de réseau, ou éventuellement de ces auteurs qui, on le voit bien sur leur mode opératoire, ont été quand même loin d'être parfaitement bien organisés, mais oui. Malheureusement, on le sait, avec peu de moyens, vous faites également un nombre de victimes important aujourd'hui avec ce type de mode opératoire.
Très rapidement, Dominique Thomas, on l'a vu hier soir, la revendication est arrivée très vite de la part du groupe État islamique. La police espagnole a tout de suite parlé de lien avec l'attaque de Cambrils. Ça veut dire qu'on peut parler d'action planifiée ?
On ne peut pas à ce stade parler d'actions planifiées. Il peut y avoir des actions inspirées qui sont revendiquées très vite. Il faut savoir aujourd'hui que l'État islamique est une organisation qui, sur le plan des revendications, est assez boulimique et peut très bien, à défaut de revendications d'autres, puisque les autres organisations, si on parle d'Al-Qaïda, nous revendiquent rarement des actions inspirées. Donc, toute action qui serait commise sur le territoire européen, même si les liens sont ténus, il peut y avoir éventuellement une allégeance qui aurait été proclamée à l'État islamique par l'un de ses auteurs, ça suffit à donner à l'État islamique le feu vert pour ensuite émettre une revendication, alors que, je dirais, il n'y a aucun lien organique, il n'y a eu aucun contact précis entre ces auteurs et l'État islamique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'État islamique joue sur cet effet d'inspiration beaucoup plus que sur des actions planifiées, des actions qui seraient commanditées depuis la Syrie ou l'Irak. Et ça donne un effet extrêmement important parce que ça leur permet de revendiquer des opérations qui vont de l'Australie aux États-Unis en passant par l'Europe. Il y a une globalisation aujourd'hui qui fait que l'État islamique est capable de faire ce genre de revendications sans pour autant planifier ce type d'opération. Et c'est l'essentiel de la menace aujourd'hui qui plane sur l'Europe.
Merci Dominique Thomas, chercheur expert des mouvements djihadistes et, je vous le rappelle, auteur notamment du livre Génération djihadiste. Ce matin, le parquet de Paris a ouvert une enquête antiterroriste. Jean-Yves Le Drian est attendu à Barcelone dans la journée. L'Espagne est en deuil national pour 3 jours. Les dirigeants du monde entier ont quasiment tous réagi. Ils condamnent unanimement et appellent à lutter contre le terrorisme. Les terroristes ne vaincront jamais un peuple uni qui aime la liberté face à la barbarie, affirme le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. En France, Emmanuel Macron exprime sa solidarité, tout comme l'ensemble de la classe politique. La France paie un lourd tribut dans cette terrible attaque de Barcelone, écrit sur Twitter le chef de l'État. Le Premier ministre, Édouard Philippe, était à Auch ce matin pour la visite d'une exploitation agricole. Alain Gastal a pu également recueillir sa réaction.
Ça n'est pas la première fois qu'une ville de fête, de liberté, de culture, frappée par un attentat aveugle et terrible. Mais à chaque fois, nous revivons ce que nous avons connu en France et nous constatons la même terreur, le même drame, la même tristesse et parfois aussi la même incompréhension. À chaque fois aussi, nous voyons ces villes européennes, des secours organisés, de vrais actes de courage, une solidarité qui s'exprime immédiatement et la volonté de ne jamais céder ni à la peur ni à la terreur que souhaite instiller dans nos esprits ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont décidé de nous déclarer la guerre.
Le Premier ministre Édouard Philippe ce matin à Auch au micro d'Alain Gastal. Un attentat à la voiture pied, à la voiture bélier qui n'est pas sans rappeler celui de Nice en juillet 2016. D'ailleurs, une cérémonie hommage avait lieu ce matin sur la promenade des Anglais avec des élus et quelques touristes présents sur place comme ce couple dont la fille se trouvait hier justement à Barcelone.
Je suis émue. C'est un hasard qu'on s'est trouvé là, bien sûr. On compatit à la douleur des familles. D'autant plus que ma fille, hier, était à Barcelone, entre 14h et 19h. Nous avons eu l'annonce de cette nouvelle vers 20h. Donc le portable, on a su qu'elle était déjà partie, donc ça allait.
Oui, d'autant plus que ma fille et puis mon neveu ne sont pas allés se balader dans Barcelone parce qu'ils avaient les sacs à dos trop lourds. Donc ça, voilà, avec le recul, on a eu peur.
Couple de touristes au micro de Pauline Renoir. Avec nous, Christian Estrosi, maire de Nice. Bonjour, monsieur Christian Estrosi.
Bonjour.
Contre les camions béliers, les voitures béliers, on ne peut rien faire si ce n'est que d'installer des barrières, des plots sur les trottoirs de toutes les villes.
Bon, d'abord, comprendrez que depuis hier après-midi, je revis avec une émotion extrêmement forte la même scène de guerre que nous avons connu le 14 juillet 2016, Et je repense à ses papas, ses mamans, ses grands-parents, ses enfants. Et je veux témoigner toute ma solidarité à Barcelone, cette ville méditerranéenne qui nous est si proche, ainsi qu'au roi, au gouvernement et à mon collègue le maire de Barcelone. Vous m'interrogez sur la sécurisation de l'espace public. Je ne donnerai de leçons à personne, puisque chacun doit faire preuve d'humilité et nous ne savons pas ce qui nous menacera demain si nous apportons une réponse précise, un mode opératoire précis. Il est vrai que d'avoir subi cette tragédie le 14 juillet 2016 avec 86 morts, près de 400 blessés, je veux le rappeler, nous a conduit à faire des choix d'investissement très lourds, de faire des coupes sur d'autres choix d'investissement pour prioriser d'abord la sécurisation de l'espace public. Aujourd'hui, la promenade des Anglais est quasi hermétique entre la circulation automobile, la circulation cycliste, la circulation piétonne. 30 millions d'euros sur près de 2 km de linéaire avec des plots rétractables pour certains, des câbles d'une résistance de 40 tonnes, une végétalisation sur cette séparation. Et bien évidemment, lorsque je vois que de nouveau la vie a repris le cours et a repris le dessus sur la mort, sur la promenade des Anglais en étant extrêmement fréquentée cet été, je me dis que en même temps, Barcelone, comme Nice, Paris, Londres, Berlin seront et sera sans doute plus forte que l'obscurantisme et l'horreur que certains veulent nous imposer.
Alors, on a bien compris, des investissements très lourds dans les villes pour lutter contre le terrorisme. Vous avez proposé ce matin d'organiser une réunion fin septembre à Nice avec les villes qui ont été touchées par le terrorisme, des villes comme Stockholm, Madrid. Et vous avez aussi souhaité créer un fonds européen pour les communes qui luttent justement efficacement contre le terrorisme.
Oui, au-delà des mesures législatives qui doivent intervenir dans la lutte antiterroriste, et notamment en France, de faire rentrer dans le droit commun les mesures prévues par l'état d'urgence, parce qu'on ne peut pas gagner la guerre avec les lois de la paix, et je le réclame depuis longtemps, et je me réjouis qu'à l'automne, enfin, ces mesures interviennent. Elles devront aller d'ailleurs plus loin pour certaines que ce qui est proposé. Mais il se trouve que le 28 et le 29 septembre prochain, était prévue une conférence avec les maires du réseau Euromed, c'est-à-dire les villes du nord de la Méditerranée et du sud de la Méditerranée qui appartiennent à ce réseau qui est labellisé par l'Union européenne et qui a des soutiens de la part de l'Union européenne sur le thème de la lutte contre la radicalisation. Aujourd'hui, chacun ne peut que le constater, les premiers en ligne face à ces attaques et à la violence de ces attaques, ce sont les maires. Ce sont les premiers à être confrontés avec leurs services et aussi avec ce quotidien où nous voyons un tas de comportements que nous signalons régulièrement au préfet, à la justice, au procureur. Donc je vais élargir, et en accord déjà avec un certain nombre de maires avec lesquels j'ai pris contact, et je pense au maire d'Athènes, au maire de Madrid, au maire de Rotterdam, au maire de Turin, au maire de Bruxelles, de Mannheim, la manière dont nous pourrions obtenir de Bruxelles un fonds européen qui nous aide à équiper nos espaces publics pour mieux les sécuriser. Le commissaire européen à la sécurité Julian King, avec lequel je me suis entretenu ce matin, est d'accord pour y participer. Je pense que cette lutte, elle passe aussi par l'union des villes européennes et nous allons engager cette démarche.
Merci Christian Estrosi, maire de Nice. Je vous rappelle que le Quai d'Orsay a ouvert une cellule de crise à Paris en lien avec le consulat de France à Barcelone. Voici le numéro 01 43 17 51 00. À noter encore qu'en France, une messe sera célébrée dimanche soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris en hommage aux victimes des attentats. On va rapidement revenir donc sur l'enquête en cours. On l'a vu en début de journal avec Nathalie Hernandez. Pour l'instant, le profil des terroristes djihadistes qui ont frappé l'Espagne hier ne serait pas connu des services de renseignement espagnols, européens et du Maghreb. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'a déclaré ce matin chez nos confrères de RTL qu'il n'y avait a priori pas de ramification avec les réseaux djihadistes en France. mais ce sont évidemment toutes les agences européennes qui cherchent ce matin à être identifiées, Emmanuel Leclerc.
Oui, en termes de coopération européenne et même méditerranéenne sur l'antiterrorisme djihadiste, et pour essayer de compléter ce qui a été dit depuis le début de ce journal, la plaque tournante est très clairement en Espagne, et on le sait depuis les attentats de Madrid en mars 2004, c'est l'Espagne avec la France qui ont poussé à la structuration des institutions devenues puissantes et que l'on commence enfin à mieux connaître, Europol, Eurojust, même s'il reste beaucoup à faire. C'est Madrid également qui a multiplié depuis 13 ans les coopérations bilatérales très poussées avec les différents pays frappés tour à tour par le terrorisme, avec des interlocuteurs uniques, un parquet antiterroriste réactif pour être capable de répondre sous 3 jours par exemple à des demandes d'entraide judiciaire. C'est le cas évidemment avec la France, où les relations entre le procureur François Molins à Paris et son homologue à Madrid pour l'antiterrorisme sont hebdomadaires et informelles, c'est-à-dire qu'ils s'appellent directement quand il y a des urgences sans passer par les chancelleries respectives. Les dernières arrestations en Espagne, justement, on en parlait tout à l'heure, les derniers démantèlements de cellules djihadistes présumées en Catalogne et dans le sud de Madrid sont à chaque fois le résultat de la coopération des services de renseignement européens et du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Après, cela fonctionne en temps réel, hein, après des attentats, on l'a vu entre la France et la Belgique, mais beaucoup moins en amont sur l'échange d'informations, la mise à jour des fichiers et parfois à l'inverse, quand les services de renseignement croulent sous les données, les ramifications complexes de réseaux, et puis réussir à détecter des activistes qui n'ont pas d'antécédents, qui ne sont pas allés combattre en Irak, en Syrie, voire au Maghreb et au Sahel. Et c'est peut-être le cas, donc, justement, avec ce qui s'est passé en Catalogne.
Emmanuel Leclerc, il est 13h25 sur France Inter.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
Dans le reste de l'actualité, une nouvelle évacuation de migrants tôt ce matin dans le secteur de la Porte de la Chapelle à Paris. Il s'agit de la 35e opération de ce type en 2 ans. Un peu plus de 2500 personnes, des hommes et des femmes qui vivaient dans la rue, installés dans des campements insalubres, avec une évacuation dans un nouveau style, Mathilde Lemire.
Le même scénario se répète et sans surprise, les associations d'aide aux migrants et la mairie de Paris avaient prévenu juste après la dernière évacuation début juillet. Des personnes continuent d'arriver chaque jour, non loin du camp de premier accueil parisien. Et si rien n'est fait, plus de 2000 migrants dormiront dans les rues du quartier mi-août. Nous y sommes donc. Et ce matin, 2451 personnes ont été mises à l'abri, selon le langage officiel. Cette nouvelle évacuation répond aux directives édictées le mois dernier par Emmanuel Macron. Plus de migrants dans la rue et un examen rapide des situations administratives. Un tri expéditif, dénoncent les associations. La nouveauté tient donc en la promesse de cet examen rapide. C'est le principe des 2 nouveaux centres ouverts près de Calais. Principe que les associations demandent à étendre à toute la France. Selon leur dossier, les personnes évacuées ce matin seront donc orientées vers un centre d'accueil pour déposer à terme une demande d'asile. Les autres doivent être reconduits dans leur pays d'origine ou dans le premier pays européen par lequel ils sont arrivés. Cela concerne les déboutés de leur demande d'asile et tous ceux qui ont été enregistrés une fois, pour la plupart en Italie, en Grèce, voire en Espagne, pays qui appelle en vain depuis des mois à une plus grande solidarité européenne.
Mathilde Dehimi, dans le scandale du Fipronil, le ministère de l'Agriculture a communiqué hier soir la liste des premiers produits à retirer de la vente en France. Leur taux de Fipronil se trouve au-dessus de la norme européenne. Pour l'instant, il ne s'agit que de gaufres fabriquées au Pays-Bas et commercialisé en France. Le ministère de l'Agriculture, qui une nouvelle fois se veut rassurant vis-à-vis des consommateurs, ce qui n'est pas le cas de l'ONG Foodwatch, qui aimerait une meilleure information sur le rappel de ces produits contaminés. Ingrid Gragel est directrice de l'information chez Foodwatch.
Ce fipronil est une substance interdite, elle ne devrait pas figurer dans nos aliments. N'aurait-il pas dû, et il nous semble que oui, communiquer auprès des consommateurs en disant, même si c'est par souci de précaution, comme ça a été fait dans plein d'autres pays européens, eh bien nous vous informons que ces produits contiennent du fipronil à tel niveau, même quand il y avait des doutes, même quand c'était faible. Nous pensons que maintenant les consommateurs ont le droit de savoir, il faut procéder au rappel, quel que soit le niveau de contamination. On a le droit de savoir et on a le droit de choisir de manger ou pas des produits contaminés. Même s'il n'y a qu'un peu de fipronil, c'est interdit, donc on ne tergiverse pas. On a l'impression finalement que tout le monde se renvoie la balle, que tout le monde nie ses responsabilités en se posant en victime. Et finalement, les consommateurs sont lésés dans l'histoire puisqu'on n'a toujours pas accès à l'information en toute transparence.
Ingrid Gragel, directrice de l'information chez Foodwatch, interrogée par Boris Théhi. Après 5 ans d'interruption et 330 000 morts, la foire gouvernementale de Damas reprend aujourd'hui. Elle sera suivie en septembre prochain par une foire privée de la reconstruction de tout petits entrepreneurs français, allemands, italiens et de très gros businessmen chinois, russes et polonais. Ils sont annoncés, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.